Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En RCA, vive tension à Bangui ce vendredi à l'occasion de la journée ville morte décrétée par la société civile pour protester contre les récentes violences dans la capitale. Des barricades ont été érigées en plusieurs endroits de la ville, dont le quartier musulman du PK5, qui reste isolé des autres secteurs de la capitale. Des habitants en colère ont également bloqué des véhicules de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, et l'un d'entre eux a été caillassé près du rond-point de l'ONU. La journée ville morte vise en particulier à dénoncer l'incapacité des autorités à mettre fin aux violences dans le pays. Plus de détails avec Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique à Bangui.
Cet appel, lancé principalement par le groupe de travail de la société civile GSTC, intervient alors que le pays observe depuis hier un deuil national de 3 jours. Les organisateurs veulent à travers cette mobilisation passer à la vitesse supérieure pour dénoncer la persistance des violences. Paul Cresson Beninga, porte-parole du GSTC.
L'heure est grave, c'est pourquoi nous avons appelé à une ville morte. Au sortir de la journée ville morte, il faut qu'on procède dans la même soirée à un concert de casseroles, toujours dans l'intérêt de manifester notre mécontentement. Notre désaccord par rapport à ce qui se passe dans le pays.
À Bangui, les réactions divergent sur cet appel à l'observation d'une journée ville morte. C'est le cas de l'OFCA, l'Organisation des femmes centrafricaines, qui n'en voit pas d'importance. Annette Wango, sa vice-présidente.
Comment être dans un état de tristesse et se mettre à faire un concert de casserole? Nous sommes des centrafricains et nous sommes des Africains. Par exemple, dans mon village, quand il y a un cas de deuil, c'est le silence. On ne peut pas faire le bruit. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'UFCA, nous avons dit que ce n'était pas opportun.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Mozambique, la mort inattendue du chef historique de la guérilla puis de l'opposition, Afonso Dhlakama, a plongé le pays en pleine incertitude politique. Le décès a lieu alors que les négociations de paix avec le gouvernement semblaient proches d'une conclusion. Jean-Roger Bion.
La chaîne de télévision locale TIM a annoncé son décès sans préciser les causes, mais plusieurs sources affirment qu'il a succombé à une crise cardiaque. Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la RENAMO. Son mouvement rebelle a combattu le Frelimo au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre civile en 1992 avant de devenir un parti politique d'opposition. Après avoir perdu plusieurs fois aux élections, la RENAMO a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo sur la vie politique depuis l'indépendance en 1975. Depuis la reprise des hostilités, Afonso Dhlakama vivait retranché dans les montagnes de Goronkosa, dans le centre du pays. À la fin de 2016, il avait proclamé un cessez-le-feu pour faire avancer des négociations de paix avec le président Philippe Nyusi. Cette trêve est largement respectée, mais aucun accord formel n'a encore été signé entre les deux parties. Des élections générales sont prévues en octobre 2019.
En Afrique du Sud, 4 mineurs ont été tués et 6 autres blessés après un séisme qui a touché jeudi la mine d'or de Masakane du groupe Sibanye Stillwater dans la banlieue de Johannesburg et provoqué l'effondrement d'une galerie. C'est ce qu'ont annoncé l'entreprise et le syndicat national des mineurs. 3 employés sont encore bloqués au fond du puits, dont 2 n'ont toujours pas été localisés, a précisé Sibanye Stillwater dans un communiqué. Et toujours en Afrique du Sud, plusieurs dizaines de milliers de mineurs victimes de la silicose et de la tuberculose suite à leur travail dans les mines vont être indemnisés en vertu d'un accord historique d'un montant de plus de 5 milliards de rand conclu avec plusieurs géants du secteur minier. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Cette transaction, la première du genre dans le pays, a été conclue au terme de 3 années d'intenses négociations. Les 5 milliards de rand, près de 395 millions de dollars, correspondent aux provisions déjà budgétisées par les groupes miniers African Rainbow Minerals, Anglo-American, Anglo-Gold Ashanti, Harmony Gold, Goldfields et Sibanye Stillwater. La somme pourrait augmenter en fonction du nombre de plaignants éligibles, d'après un avocat qui a participé aux négociations. Plus de 100 000 travailleurs dans les mines d'or d'Afrique du Sud depuis 1965 pourraient être indemnisés. Les veuves des mineurs décédés de silicose ou de tuberculose seront également éligibles à des dédommagements. Surnommé le mal des mineurs, la silicose affecte les poumons de manière irréversible, mais est évitable en portant des équipements de protection. Les mineurs affirment avoir contracté la maladie en étant contraints par leurs employeurs de travailler pendant des années dans des conditions jugées dangereuses.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier qu'il va porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier Vincent Bolloré. Le milliardaire français est inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Je vais porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse, a lancé sans plus de détails Alpha Condé à l'occasion hier de la Journée mondiale pour la liberté de la presse. Il a reproché aux journalistes guinéens de n'avoir pas joué leur rôle. Vous n'avez jamais protesté quand on raconte des histoires sur votre pays parce que vous continuez à désinformer. C'est à Paris qu'on va s'expliquer parce qu'aucun de vous n'a cherché à savoir la vérité, a lancé M. Condé. Son ministre de la Justice, Cher Sako, avait pourtant assuré que la Guinée allait collaborer avec la France dans cette affaire. Le président Condé, peu après son arrivée au pouvoir en 2010, avait résilié la gestion du terminal du port de Conakry octroyé en 2008 pour 25 ans à Guettman pour la confier au groupe Bolloré. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré tentent de déterminer si son groupe a utilisé les activités de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé. Le groupe Bolloré a démenti ces accusations. Le 26 avril, la Commission nationale d'enquête administrative guinéenne a démenti toute implication d'Alpha Condé dans l'octroi du terminal à conteneurs de Conakry au groupe Bolloré.
Au Sahel, 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire. 1 600 000 enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère et 2,5 millions d'éleveurs et agro-éleveurs ont besoin d'une aide urgente en moyen de subsistance. C'est ce qu'ont affirmé conjointement la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, donne plus de détails.
La sécheresse, la flambée des prix des denrées alimentaires et les conflits vont entraîner des millions de personnes dans la faim et la malnutrition dans certaines parties du Sahel si la communauté internationale n'agit pas maintenant. Cette situation est due en grande partie à l'intensification des conflits armés qui perturbent les services de base et les moyens de subsistance, ainsi qu'à la cohésion sociale des populations, comme l'indique Abdou Dien, directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Quand vous regardez les pays du Sahel, vous savez que le terrorisme s'installe et effectivement ça crée de l'insécurité. Cette insécurité fait que beaucoup de personnes qui dépendent de l'agriculture n'arrivent plus à s'adonner à leurs activités traditionnelles. Alors donc, en même temps, il faut faire face à ces problèmes d'insécurité alimentaire, mais aussi il faut faire face aux problèmes d'insécurité tout court.
Dans les six pays, 1,6 million d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, soit une augmentation de 50% par rapport à la dernière crise nutritionnelle majeure du Sahel en 2012. L'insécurité alimentaire, les pratiques alimentaires inadéquates ainsi que le manque d'accès à l'eau potable sont les causes des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants. Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare qu'il faut agir vite.
L'action doit être prise maintenant. Trop d'enfants sont à risque. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour que nous commencions à mettre en place les réponses nécessaires. Il y a une solution. Simplement, il ne faut pas attendre. Chaque enfant doit être détecté. Dès qu'il est détecté, il doit être pris en charge. Et si c'est le cas, les chances de succès seront là. Donc il faut agir tout de suite pour traiter ces enfants et traiter les causes dans le long terme. Maintenir l'accès aux services, maintenir la paix et la cohésion sociale.
L'UNICEF, la FAO et le PAM ont développé une réponse conjointe pour couvrir les besoins alimentaires, protéger les moyens de subsistance et lutter contre la malnutrition à court terme. Koumba Sow, coordonnatrice sous-régionale pour la résilience en Afrique de l'Ouest dans le Sahel, estime que des moyens de riposte sont disponibles.
Le Sahel connaît ses crises. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Et nous savons prévenir maintenant, puisque nous avons des analyses qui nous permettent de savoir combien de personnes seront touchées, où est-ce qu'elles seront touchées. Et de ce fait, on peut mieux se préparer à les assister pour nous assurer que ça ne dégénère pas en une crise, etc.
L'UNICEF, la FAO et le PAM appellent à un soutien urgent de la part de tous les partenaires, y compris les donateurs, pour aider à atténuer la détérioration actuelle dans le Sahel. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Nigeria, pour terminer, au moins 4 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans les attentats suicides commis jeudi soir par des femmes kamikazes dans le nord-est du pays dévasté par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. 4 femmes kamikazes ont ciblé les villages de Mainuri Shua et Mainuri Kanuri près de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno dans le nord-est.